Le journal, Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Maladroite pour certains, carrément scandaleuse pour d'autres. Le ministère de l'Éducation très critiqué pour sa campagne de rentrée sur la laïcité. Les syndicats enseignants montent au front, on vous expliquera pourquoi dès le début de ce journal. C'en est cette fois complètement terminé de 20 ans de présence militaire américaine en Afghanistan. Les derniers soldats sont partis dès hier soir. Pendant ce temps en France, le gouvernement s'interroge. Les villes qui ont promis d'accueillir des Afghans respectent-elles leurs engagements? Au sommaire aussi, le pass sanitaire dans les centres commerciaux, bien fragile devant les tribunaux, et la pluie de records aux Jeux Paralympiques de Tokyo.
Au micro de Léa Salamé, dans 20 minutes, à 7h50, c'est aujourd'hui, je vous le rappelle, l'écrivaine Amélie Nothomb, elle publie Premier sang aux éditions Albin Michel. Ce sont 8 affiches, Alexis, qui font polémique avant même la rentrée.
L'éducation nationale lance cette semaine une grande campagne de communication sur la laïcité. On peut voir par exemple sur ces affiches un petit garçon blanc aux côtés d'une petite fille noire à la piscine, accompagné de ce commentaire « Permettre à Sacha et Nessa d'être dans le même bain, c'est ça la laïcité ». Le ministère veut montrer que ce principe s'applique concrètement au quotidien lors d'activités scolaires. Eh bien, si l'objectif était de faire réagir, c'est réussi, car les critiques se multiplient, notamment Rémi Brancato de la part des syndicats enseignants.
Poursuite d'éducation, les affiches mélangent religion, couleur de peau et origine géographique supposée des élèves. Un dévoiement raciste, estime le syndicat minoritaire. Sans aller aussi loin, le SNES majoritaire et sa secrétaire générale, Sophie Venetite, estiment que le message est trop flou.
Cette campagne d'affichage, elle ne parle absolument pas de laïcité, puisqu'il n'est pas du tout fait mention de la religion. Elle est une forme d'essentialisation, c'est-à-dire qu'elle renvoie les élèves à une de leurs caractéristiques, notamment leur prénom. On passe déjà beaucoup de temps à démonter les incompréhensions qui peuvent exister. C'est pas ce genre d'affiche qui va nous faciliter le travail.
Le ministère de l'Éducation explique que ces affiches renvoient à des supports pédagogiques pour engager une discussion en classe, ce qu'a défendu Jean-Michel Blanquer sur France 3 dimanche.
C'est dommage, mais c'est pas complètement étonnant que dans nos sociétés, il y ait des secteurs qui veuillent rendre polémiques des choses qui normalement ne doivent pas l'être.
Mais les affiches apparaissent aussi sur les réseaux sociaux.
Le problème principal, c'est que c'est hors sujet.
Jean-Louis Bianco, président de la Vigie de la laïcité, pointe un risque de confusion.
On a l'impression, une fois qu'on a vu ces affiches, que la laïcité c'est fait pour les gens qui ne sont pas français de souche, comme on disait. Qu'on ne parle pas de laïcité et qu'on montre essentiellement des enfants de familles issues de l'immigration, ça donne le sentiment que c'est fait pour normer ces enfants-là. Et c'est très dangereux parce qu'on les assigne à résidence à une seule partie de leur identité.
Résultat, selon lui, une nouvelle polémique sur un sujet qui aurait mérité l'apaisement.
Et si vous voulez voir ces affiches, retrouvez notre dossier complet sur franceinter.fr. À la veille de leur rencontre avec le Premier ministre, les syndicats mettent déjà la pression. 8 d'entre eux, dont la CGT, FO, FSU et Solidaires, se sont mis d'accord hier soir sur une date de mobilisation dans la rue. Ce sera le 5 octobre prochain. Ils mettent notamment en garde contre le retour de la réforme des retraites et de la réforme de l'assurance chômage.
Il est 7h33, le dernier avion de l'armée américaine a donc quitté Kaboul à 21h30.
Et avec un jour d'avance sur leur date butoir, les États-Unis ont achevé leur retrait précipité d'Afghanistan dès hier soir, après 20 ans de présence militaire sur place et 15 jours d'une évacuation chaotique. Les talibans célèbrent leur victoire en tirant des coups de feu en l'air dans les rues de Kaboul. Félicitations à l'Afghanistan, clame le porte-parole du nouveau régime, pour qui cette défaite américaine est, je cite, une grande leçon pour d'autres envahisseurs. Nous serons à Kaboul dans le journal de 8h. Et on s'interroge ce matin, que vont devenir tous ceux qui n'ont pas pu partir à temps? Le Conseil de sécurité de l'ONU n'a pas retenu hier soir le principe d'une zone humanitaire protégée proposée par la France et le Royaume-Uni. D'autres ont eu plus de chance, 2600 Afghans accueillis en France ces 15 derniers jours. De nombreuses villes ont proposé spontanément de les héberger, mais les promesses sont-elles suivies des faits? Question posée par Marlène Schiappa dans un courrier à une vingtaine de maires. La ministre chargée de la citoyenneté leur demande de transformer les paroles en actes. Eh bien, les premiers concernés lui répondent assez sèchement, Antoine Gignot.
À Lille, Martine Aubry n'a pas attendu la lettre de la ministre. 58 Afghans sont déjà sur place et près de 40 autres doivent arriver. Même scénario à Besançon avec 16 réfugiés pour l'instant et à Bordeaux où l'écologiste Pierre Ulmic fulmine. Il a logé 5 familles puis réquisitionné une auberge de jeunesse pour 51 personnes avant de recevoir de Marlène Schiappa le message suivant « Je constate que votre offre d'hébergement n'a pas été suivie d'effet ».
J'avais failli m'étouffer en lisant sa lettre, parce que c'est ou bien de l'ignorance, hein, ce qui est possible, ou bien de la provocation, ou un peu des deux. Elle n'est pas autorisée à me donner des leçons d'accueil, sachant que nous avons été très rapidement volontaires pour accueillir ces réfugiés, et puis que ça a été immédiatement suivi des faits.
Les maires, qui n'ont pour l'instant accueilli personne, eux, expliquent qu'ils attendent, dans chaque département, le feu vert des préfectures. À Grenoble, on planifie, à Marseille, pas d'informations, rien à Nancy, ni à Nantes, et pas plus de nouvelles à Saint-Étienne, lorsque Gaël Perdriau, le maire, les Républicains, appelle les services de l'État.
On ne donne pas de réponse à des collectivités qui sont volontaires et qui sont préparées. C'est encore une fois un mépris des élus locaux qui est assez insupportable.
Pas de précision au ministère. On parle d'opérations d'accueil en cours, sans donner de détails sur les futures destinations des réfugiés.
Antoine Gignot, lui est devenu une figure controversée de la crise sanitaire. Va-t-il le rester une fois à la retraite ? Didier Raoult atteint aujourd'hui l'âge limite. Le professeur marseillais retraité malgré lui, il avait demandé une prolongation de ses fonctions de professeur des universités et de praticien hospitalier. Mais sa hiérarchie refuse. Quant à son maintien à la tête de l'Institut hospitalo-universitaire qu'il dirige depuis sa création il y a 10 ans, verdict dans une quinzaine de jours. Quand la crise sanitaire investit aussi les tribunaux. Les recours en justice se multiplient ces derniers jours contre l'application du pass sanitaire dans les grands centres commerciaux. Certains tribunaux administratifs donnent d'ailleurs raison aux plaignants en retoquant les décisions des préfets. C'est ce qui s'est déjà passé dans les Yvelines, dans l'Essonne ou encore le Haut-Rhin. Et aujourd'hui, c'est à Paris qu'une audience est prévue. Winnie Claret.
La faille se trouve en fait dans la loi. Le pass sanitaire est étendu aux grands centres commerciaux à condition de garantir l'accès de tous aux commerces essentiels à l'intérieur des galeries. C'est ce qui justifie le feu vert du Conseil constitutionnel début août et c'est ce que défend Johan Sibyl, l'avocat qui a obtenu la suspension de l'arrêté dans les Yvelines.
Le gouvernement a amendé le texte de loi, 10 ans, exactement le texte actuel, c'est-à-dire que l'accès aux biens de première nécessité doit être garanti dans les centres commerciaux. Et c'est ça qui est assez surprenant dans cette histoire. Le préfet, qui est censé être subordonné au gouvernement, ne respecte pas la décision du gouvernement.
Puisqu'il faut bien montrer patte blanche, ou plutôt son QR code, pour entrer dans les centres sous le coup de la mesure, même pour aller faire ses courses au supermarché ou se rendre à la pharmacie. C'est aussi ce que pointe le tribunal administratif de Versailles en suspendant l'arrêté de la préfecture des Yvelines. Mais le gouvernement ne l'entend pas de cette oreille. Il compte faire appel de toutes les suspensions. Maître Sibyl.
C'est une énorme erreur de la part du gouvernement de faire appel, parce qu'en faisant appel, vous faites donc appel à une juridiction beaucoup plus importante. Donc forcément, si le Conseil d'État confirme la décision des Yvelines, ça aura une force très importante.
L'avocat espère que les recours déposés en région parisienne auront un effet boule de neige dans tous les départements concernés.
Et en raison du rebond des contaminations liées au variant Delta, les États-Unis sortent de la liste verte de l'Union européenne ce matin. En clair, Bruxelles réimpose donc des restrictions aux voyages non essentiels des Américains en Europe. Une mesure qui touche aussi le Liban ou encore Israël. Israël qui mise pourtant à fond sur la vaccination, le pays pionnier dès le début de l'année et qui passe déjà massivement à la 3e dose en cette fin d'été. Tous les plus de 12 ans y ont droit, à condition d'avoir reçu la 2e dose il y a plus de 5 mois. Et à Tel Aviv, Frédéric Mettezo, on ouvre même des centres la nuit.
Ils sont plusieurs centaines à faire la queue. Beaucoup de jeunes adultes comme Esther.
On a une tente avec une vaccination de 19h à 2h du matin. Donc déjà, c'est assez impressionnant. Les gens peuvent venir toute la nuit et après aller boire une bière ou un café.
La 3e dose est un succès car elle dispensera de quarantaine ceux qui rentreront de l'étranger. Or, à l'occasion du Nouvel An juif, la semaine prochaine, des milliers d'Israéliens vont partir en voyage. Tal et Sam ont attendu plus de 2 heures.
Yes, it's crazy. I didn't...
Oui, c'est fou. Je ne pensais pas que ce serait comme ça, mais bon. Je veux me rendre en Allemagne dans 2 semaines.
C'était très facile, très long mais très facile. Comme ça, je n'aurai pas de quarantaine en rentrant des États-Unis.
Ce soir, on savoure les glaces offertes par la mairie. On a apporté à boire, on promène le chien et même on fume un joint sur le trottoir. Nir apprécie l'ambiance.
You meet people.
Tu rencontres des gens, ça se passe la nuit et Tel Aviv est une ville qui vit 24h sur 24. Je n'ai pas peur car je crois en la science.
En Israël, le mouvement anti-vax est très peu mobilisé et très peu médiatisé. Et c'est tant mieux pour Dana.
J'ai plus peur d'attraper le corona ou de le répandre que de faire des effets secondaires.
6 millions d'Israéliens sont éligibles à la 3e dose. 2 millions l'ont déjà reçu en un mois. La proportion de cas graves chez les nouveaux malades a été divisée de moitié. Tel Aviv, Frédéric Mettezo, France Inter.
En Louisiane, au moins 2 morts après le passage de l'ouragan Ida hier et des dégâts matériels importants, même si le sud des États-Unis a évité le pire. Rien à voir avec Katrina il y a 16 ans. Plus d'un million de foyers sont toujours privés d'électricité. Aux Jeux paralympiques de Tokyo, une 3e médaille cette nuit pour le cycliste français Alexandre Léauté. Il a pris le bronze en contre-la-montre. Alors qu'il reste une petite semaine d'épreuves maintenant, la délégation tricolore a déjà égalé le nombre total de médailles remportées à Rio en 2016. Plus globalement, ces Jeux sont ceux de tous les records sportifs. Sur piste, dans les bassins, ils tombent les uns après les autres, Guillaume Batin.
À chacune de leurs sorties sur le vélodrome paralympique d'Izu, Dorian Foulon et Alexandre Léauté ont enchaîné les victoires et les records du monde et paralympiques. Pareil en natation, pareil en athlétisme, les meilleures performances de Rio tombent les unes après les autres. Sami El Guedari a deux explications. Il est directeur du pôle performance à la Fédération française handisport.
Le premier, c'est l'optimisation du matériel et le fait que voilà, les adaptations en lien avec le handicap se perfectionnent. Il y a de plus en plus de scientifiques qui s'intéressent à ces questions, qui s'intéressent au sport paralympique. Et donc aujourd'hui, les athlètes paracyclistes bénéficient d'un matériel haut de gamme à la pointe qui ne cesse d'évoluer et qui ne cesse de les aider à repousser les limites chronométriques. Et puis après, il y a une autre explication, c'est que grâce à la médiatisation dans tous les pays du monde, il y a de plus en plus d'entraîneurs qui s'intéressent aux athlètes en situation de handicap. Il n'y a plus de complaisance à l'égard de ces sportifs. Ils veulent avant tout dépasser les limites fixées par leurs prédécesseurs. Et donc, ils s'entraînent dur, ils s'entraînent depuis de nombreuses années et ils ont à cœur de repousser les limites de leur catégorie.
La technique, l'encadrement, mais aussi la jeunesse. La moyenne d'âge des athlètes qualifiés aux Jeux paralympiques ne cesse de baisser tous les 4 ans depuis la première édition à Rome en 1960.
Guillaume Batin à Tokyo. Tokyo, ce matin, la France compte 31 médailles, Nicolas.
Alexis Morel, merci. La politique à suivre sur Inter.